9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Ce qui est arrivé cette semaine, c'est un ministre de l'économie qui ose lancer, depuis la tribune du Sénat...
Aujourd'hui, les impôts, les taxes, ça suffit. Il faut s'engager dans une baisse profonde.
Bruno Le Maire, nouveau porte-parole du ras-le-bol fiscal. Pas sûr que cela suffise à calmer les gilets jaunes qui s'apprêtent à manifester à Paris, d'autant que l'un de ses ex-collègues est venu cette semaine déplorer le manque de mesures sociales pour accompagner les hausses de taxes carbone.
Ma volonté à moi, c'était effectivement de réconcilier l'écologie et le social. Et on n'y est pas parvenu. Et cette crise était évitable. Je me suis battu, et notamment les semaines qui ont précédé mon départ, pour qu'on change complètement d'échelle dans l'accompagnement social de la transition énergétique et écologique.
Nicolas Hulot à l'émission politique de France 2. Mon premier invité sera un professeur d'économie, l'ancien député socialiste Pierre-Alain Muet, qui vient de publier « Un impôt juste, c'est possible ». À part cela, quoi de neuf cette semaine ? Jean d'Ormesson.
Vous savez la formule que j'envoie souvent, qu'est-ce que vous avez aimé dans la vie ? Dans l'ordre, les bains de mer, les femmes, les livres.
Les bains de mer avant les femmes ?
Ah, les bains de mer, c'est irrésistible.
Plus que les femmes ?
À mon âge.
Jean d'Ormesson, qui un an après sa mort fait l'objet d'un portrait intime, la journaliste Sophie Desdéserts, qu'il a beaucoup fréquenté, corrige quelque peu la statue qu'il avait lui-même édifiée à sa gloire. Son livre « Le dernier roi soleil » vient de paraître. Enfin, une autre star dans cette arrivée cette semaine, une immense chanteuse plus divine que diva, mais qui vend autant de disques que les stars de la pop, Cecilia Bartoli, la mezzo-soprane italienne, revient à Vivaldi avec un nouveau disque de chants oubliés et à Rossini avec l'intégrale de ses enregistrements pour nous rappeler qu'elle demeure la plus grande interprète rossinienne de sa génération. Époustouflante Cecilia Bartoli dans le Barbier de Séville de Rossini, l'une des grandes voix de l'art lyrique sera donc là pour inaugurer les nouveaux studios d'Europe 1.
Europe 1.
Bonjour Pierre-Alain Muet.
Bonjour.
Vous avez enseigné l'économie en grandes écoles, conseillé Lionel Jospin à Matignon, siégé à l'Assemblée comme député socialiste. Et dans un timing parfait, vous venez de publier « Au seuil, un impôt juste, c'est possible ». Il y a des propositions et aussi un rappel historique très instructif sur l'histoire des impôts et notre consentement à les payer. Mais d'abord, c'est quoi, à vos yeux, un impôt juste ?
Un impôt juste, c'est dit dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est un impôt qui tient compte des capacités contributives de nos concitoyens. Donc l'impôt juste, c'est par exemple l'impôt sur le revenu progressif, puisqu'il ne taxe pas de la même façon le superflu qui doit être taxé et le nécessaire
et
qui ne doit pas l'être.
J'ai d'ailleurs appris en vous lisant que c'est Montesquieu qui le premier parle d'impôt progressif.
Oui, c'est...
1748 dans l'esprit des lois, dans l'impôt sur la personne, la proportion injuste serait celle qui suivrait la proportion des biens. Donc il faut effectivement taxer différemment le nécessaire et le superflu. C'est l'esprit des Lumières, de plusieurs
absolument.
Des Lumières.
Les Lumières avaient déjà tout dit sur la progressivité. La progressivité de l'impôt, ça n'est pas pour redistribuer, c'est pour tenir compte des capacités de chacun.
Et donc, l'essence, le carburant, puisque c'est l'actualité, pour des millions de familles, ce n'est pas le superflu, c'est le nécessaire pour aller travailler.
Oui, alors c'est le problème de la taxe écologique. Comme toute taxe indirecte, elle est injuste puisqu'elle taxe de la même façon le riche et celui qui a un revenu modeste.
Alors
il faut compenser parce que le but d'une taxe écologique, ça n'est pas de rapporter de l'argent à l'État. C'est pas fait pour alimenter le budget. Une taxe écologique, c'est fait pour changer un prix. Et on a besoin de changer le prix. On a besoin de changer le prix du carbone parce qu'on peut tenir tous les discours qu'on veut sur la lutte contre le réchauffement climatique. Dans une économie de marché, si vous ne changez pas le prix des matières premières, pour tenir compte des effets nuisibles sur la planète, eh bien, vous ne changerez pas fondamentalement le modèle. Donc, on a besoin d'une taxe carbone, mais il faut la compenser.
Il faudrait
la compenser en même temps dans l'impôt.
Dans l'impôt, vous avez des propositions. On va y venir, Pierre-Alain Muet. Mais d'abord, dans le constat que vous faites dans ce livre, c'est... d'un système injuste, complexe, mité par les niches et l'optimisation fiscale. Un exemple qui m'a frappé, on entend souvent dire que la moitié des Français ne paient pas l'impôt sur les revenus. C'est faux.
Oui, écrivez-vous. Alors, bien sûr, c'est faux.
Pourquoi ?
Nous avons deux impôts sur le revenu en France. Nous avons un impôt sur le revenu traditionnel, progressif, qui effectivement est payé par la moitié des Français. Et puis nous en avons un autre qui est payé par tous les Français, à un taux absolument exorbitant qui est la CSG. Dans aucun pays au monde, vous commencez l'impôt sur le revenu à un taux de 9,7%, puisque c'est le taux de la CSG, dès le premier euro gagné. Et quand on regarde, quand on compare la France à d'autres pays, l'impôt sur le revenu, c'est 3% de la richesse nationale, chez nous. La CSG, c'est 6%. L'impôt sur le revenu dans tous les autres pays, c'est entre 8 et 10% de la richesse nationale. Donc, quand on fait la somme CSG plus impôt sur le revenu, on a ce qu'est l'impôt sur le revenu ailleurs. Sauf que le plus gros de nos deux impôts n'est pas progressif.
Donc, on a globalement une fiscalité qui n'est plus conforme au canon de Condorcet ou de Montesquieu.
Absolument.
Qui n'est plus progressif. Tous les Français paient la CSG et pour 90% d'entre eux, écrivez-vous, le poids de la CSG est supérieur
Absolument.
À l'impôt sur le revenu et c'est quelque chose qu'il faudrait corriger. Pierre-Alain Muet, économiste et ancien député, on va marquer une courte pause avant d'écouter vos solutions. Vous expliquez qu'un impôt juste, c'est non seulement possible, mais que c'est facile, en tout cas plus facile, grâce au prélèvement à la source.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1. Vous écoutez, c'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec notre premier invité, Pierre-Alain Muet, économiste et ancien député, auteur de « Un impôt juste, c'est possible ». J'ai envie de vous dire dans une boutade, Pierre-Alain Muet, que pour beaucoup de Français, l'impôt juste, c'est celui qui frappe les autres. C'est souvent ce qu'on entend quand même dans les micro-trottoirs ou les paroles de rue de ces derniers jours. Mais si vous dites que c'est possible, un impôt juste, vous le dites dans votre livre, c'est grâce au prélèvement à la source, vous en étiez un fervent partisan et j'ai découvert en vous lisant que ce prélèvement figurait dans le programme fiscal de la CGT au sortir de la guerre en 1947. C'est donc arrivé 70 ans après, c'est vrai ?
Absolument. Il y a eu beaucoup d'essais. Jacques Chirac, secrétaire d'État, essayait de faire le prélèvement
à
la source
en
68. 67, 68. Giscard d'Estaing, ministre des Finances, a essayé. Personne n'est jamais allé au bout et on est le seul pays à ne pas prélever l'impôt à la source.
Bon, ça va être fait, dans quelques semaines.
Donc
maintenant,
c'est une très bonne chose.
Expliquez-nous alors pourquoi, avec le prélèvement à la source, la mère des réformes, selon vous, on peut facilement diminuer l'imposition des plus modestes sans écraser les autres.
Alors, on a essayé avec Jean-Marc Ayrault de le faire en baissant la CSG sur les revenus les plus modestes.
Oui.
Mais il y a plus simple. Le plus simple, c'est d'intégrer dans l'impôt sur le revenu notre revenu minimum, le RSA, et puis le complément qu'on appelle la prime d'activité qui permet d'accompagner la sortie du RSA. Parce qu'on arrive à un impôt qui commence quand on n'a aucun revenu par un versement. On verse le revenu qui devient alors un revenu universel. Le RSA, c'est 550 euros. Il faut le demander. Certains ne le demandent pas.
Oui, 30% dit-on d'après certaines études.
Absolument.
Oui.
Donc ce qui serait juste, c'est qu'il soit versé automatiquement. L'administration fiscale connaît parfaitement vos revenus avec un mois de décalage, y compris les revenus des couples aujourd'hui. Donc il est parfaitement possible de verser automatiquement le RSA, de verser automatiquement la prime d'activité et d'intégrer tout ça dans l'impôt. Donc l'impôt commence par ce qu'on appelle un impôt négatif, c'est-à-dire un versement quand on n'a aucun revenu.
C'est un filet de sécurité.
Un filet de sécurité. Continue par un prélèvement quand le revenu est suffisamment important. Et il n'y a pas besoin de changer complètement notre impôt. Il faut simplement tout rentrer, en quelque sorte, dans l'impôt sur le revenu.
On fusionnerait tous les dispositifs fiscaux et sociaux dans un seul prélèvement qui s'appliquerait à tous les citoyens.
Voilà, c'est à la fois un versement et un prélèvement. Et fondamentalement, c'est un revenu universel qui s'intègre dans un impôt sur le revenu. C'était, d'une certaine façon, ce qu'avait proposé Benoît Hamon, qui a été mal compris pendant la campagne présidentielle, mais c'était sa proposition.
Une imposition des revenus progressive dès le premier euro.
Et oui, ça
change tout. Et tout cela, à somme nulle, pas tout à fait. D'abord, vous l'avez souligné, si on prend en compte le non-recours, les gens qui ont droit à des aides sociales, mais qui ne les demandent pas, forcément, le dispositif
oui,
déjà coûterait plus cher.
Oui, donc ce n'est pas à somme nulle, mais c'est compatible avec la volonté du législateur, puisque quand on fait un dispositif, c'est pour qu'il soit utilisé. Donc, le but, c'est effectivement que tous ceux qui ont besoin, qui n'ont pas de revenus et qui ont besoin de toucher le RSA, le touchent automatiquement, que ce ne soit pas du tout montré du doigt, puisque tout le monde, en fait, touche le revenu universel et paye un impôt au premier euro dès qu'il a d'autres revenus. Donc, c'est un système qui est parfaitement simple, qui est juste et qui permettrait même de résoudre la difficulté actuelle de la compensation de la taxe carbone.
C'est-à-dire, par exemple ?
Eh bien, quand on fait une taxe écologique, le but, c'est de changer un prix sans peser sur les revenus. Mmh. Or, on pèse forcément sur les revenus. Si vous augmentez le prix du carburant, ça va être très lourd pour les bas revenus.
Et on l'a dit, on taxe le nécessaire pour beaucoup de familles.
Absolument. Oui. Donc, que faire ? Eh bien, si vous aviez le dispositif que je propose et qui n'est pas très compliqué à mettre en œuvre, il faut simplement du temps et du courage.
Et de la volonté, oui.
Mais c'est comme le prélèvement à la source.
Oui.
Eh bien, on pourrait, par exemple, augmenter le revenu universel, la composante qui est versée à tout le monde, et compenser exactement tous les mois le montant de l'augmentation de la taxe carbone. On ne pourrait plus reprocher à la taxe carbone d'être un impôt qui pèse sur le revenu parce que ça serait compensé. Et je trouve que c'est plus juste de le compenser comme ça que... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'autres mesures, mais le compenser en disant « je vais vous permettre d'acheter une voiture », on sait très bien que quand on a des revenus modestes, on ne se pose pas la question d'acheter une nouvelle voiture. La question qui se pose, c'est comment boucler ses fins de mois.
Chacun serait réellement impacté selon ses revenus, selon les revenus dont il dispose. C'est la solution que vous proposez, Pierre-Alain Muet. On verra ce qu'en dit Emmanuel Macron en mardi, puisqu'il doit formuler des propositions d'accompagnement social, comme l'a dit Nicolas Hulot. Merci Pierre-Alain Muet. Un impôt juste, c'est possible. Ça vient de paraître au seuil. Merci à vous d'être venu nous en parler sur Europe 1 ce matin.
Europe 1.
Dans un instant, des secrets dévoilés de Jean d'Ormesson. Comment devient-on Jean d'Ormesson ? S'est demandé la journaliste Sophie Desdéserts, qui publie Le dernier Roi Soleil, une coédition Grasset-Fayard. A tout de suite.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1.
De 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine.
Il était une star et même mieux que ça, un phénomène de société. Le vieil homme préféré des Français, le gentilhomme de la République, le doyen des immortels. À sa mort, Jean d'Ormesson eut droit à un hommage national dans la cour des Invalides, un discours présidentiel et le crayon à papier posé sur le cercueil. Un an après, voici un livre posthume, un deuxième tome de la Pléiade et aussi ce portrait intime intitulé « Le dernier Roi Soleil ». Bonjour Sophie Desdéserts.
Bonjour.
Journaliste à Vanity Fair après des années au Nouvel Obs. Pourquoi Roi Soleil, à propos de Jean d'Ormesson ?
Roi Soleil parce que, à cause de la lumière d'abord, du pouvoir, de la cour qui était autour de lui et de cet immense pouvoir qu'il avait à la fois sur la vie littéraire et quelque part aussi sur la vie politique. Il était courtisé par tous les présidents. Ça a commencé avec Pompidou. Il était très proche de Nicolas Sarkozy, proche aussi de François Mitterrand, qui lui a accordé son dernier rendez-vous de président avant la passation de pouvoir en 1995.
Et vous vous demandez comment devient-on Jean d'Ormesson ? C'est à ça que répond le livre, en quelque sorte ?
Ça a été effectivement la question que je me suis posée après l'avoir rencontré à deux ou trois reprises. Effectivement, j'ai été surprise d'abord, comme tout le monde, par son charme, par sa malice, la façon dont il vivait. Je me disais, après lui, plus personne ne vivra comme ça.
Ouais.
Et puis, ces personnages autour de lui fabuleux, son épouse qui, au début, est glacée, mais que je découvre... non seulement très touchante, mais essentielle aussi dans sa vie. Son majordome, Olivier, qui est un homme absolument délicieux et d'une loyauté sans faille et d'une humanité aussi très touchante. Et je me dis, au fil du temps, j'ai mis vraiment plusieurs mois avant de me dire qu'il y avait là peut-être un livre, en me posant cette question, voilà, comment on devient Jean d'Ormesson ? Comment on devient ce roi soleil aimé de tous les Français, y compris dans les milieux les plus populaires et y compris chez les très jeunes, c'est ce que j'ai découvert.
La première réponse, c'est qu'on devient Jean d'Ormesson sur le tard seulement. Hein. Directeur de journal à 49 ans sans jamais avoir été journaliste. Il n'est considéré comme écrivain que 3 ans plus tôt, avec La gloire de l'Empire, sa grande fresque historique. Jusque-là, il est considéré comme un romancier assez médiocre.
Il en souffre d'ailleurs. Il dit combien il en a souffert. Il se posait des questions sur son utilité sociale et sur cette vie d'écrivain. Il a beaucoup souffert que son père meure avant d'avoir vu les succès.
En 57, oui.
Effectivement. Et puis, il y a cette année fabuleuse dans sa vie, qui est l'année 74, Gloire de l'Empire, Académie française, Figaro, comme vous l'avez dit, qui tout d'un coup voilà, le propulse au devant de la scène médiatique, comme on ne disait pas à l'époque.
Vous avez parlé de son épouse essentielle, Françoise. On peut dire qu'il a fait un très beau mariage, comme on disait dans son monde à lui, avec une des héritières Béguin. Et donc, il n'a jamais manqué de rien. On peut dire qu'il a vécu plus de 50 ans sans aucun tracas matériel. Ça compte quand même dans la vie d'un homme. Hein.
Aucun tracas matériel, absolument aucun. Elle lui a permis d'avoir une très jolie vie. Elle s'y est employée, elle, toute son existence. Et d'être toute à l'écriture. Ce qui est, je crois, le rêve de tous ceux qui écrivent. Il a pu tout à loisir passer son temps à écrire jusqu'à la fin de sa vie, penché sur ses feuillets, son stylo. C'était très émouvant d'ailleurs de le voir griffonner encore et encore et passer des heures à passer au tamis ses textes. Elle a été essentielle. Il lui en rend hommage d'ailleurs dans ses derniers ouvrages. On voit qu'à la fin de sa vie, il s'ouvre, il change. Il parle un peu de son intimité comme si... quelque part aussi lui avait envie de se dévoiler. Je crois que le fait qu'il m'ait donné son accord et qu'il ait donné aussi parallèlement son accord à Laurent Delahousse pour le filmer, ça traduisait en tout cas ces dernières années une volonté peut-être de tomber un peu le masque.
Alors ce masque justement, ce masque venu avec la célébrité, ce charme que vous racontez, que vous décrivez, vous vous demandez si... Ce qu'il en était avant, dans le Jean d'Ormesson d'avant. Et vous supposez que ce Jean d'Ormesson-là devait être quelqu'un d'assez imbuvable, arrogant, horripilant, que le charme n'est venu qu'avec l'âge.
Le charme est venu avec l'âge. Il m'a dit un jour cette phrase, il m'a dit « Sophie, j'ai découvert vers l'âge de 70 ans que j'étais devenu beau. » Et je crois qu'il est aussi devenu bon. Beaucoup plus intéressé par les autres. Il a été très longtemps préoccupé beaucoup par lui-même. Il a été choyé par une mère extrêmement aimante qui a fait de lui un petit roi soleil dès les premières heures de sa vie, je pense. On voit aussi dans ses livres que les questions existentielles apparaissent. Enfin voilà, il fait son chemin de vie.
Alors dans ce portrait intime, il y a aussi, même s'il ne faut pas résumer votre livre à cet aspect-là, il y a aussi les amours multiples de Jean d'Ormesson, Françoise, sa femme, Marcy, devenue son éditrice, Ayam, pour qui il a voulu divorcer. Les deux premières vous ont ouvert leurs portes. Vous remerciez Françoise à la fin du livre, mais je ne suis pas sûr que Françoise vous remercie, vous, aujourd'hui, parce que apparemment votre livre ne plaît pas du tout à la famille et aux proches de Jean d'Ormesson. Chateaubriand vu par Closer, dit Jean-Marie Roire. Pourquoi cette hostilité, alors que Jean d'Ormesson, lui, avait envie de se dévoiler à la fin de sa vie?
Pour ma part, je n'ai eu aucune réaction directe, hormis un silence, que j'interprète évidemment...
comme de la désapprobation.
Comme il se doit. Ce que je peux vous dire, c'est que tout a été fait en plein accord avec Jean d'Ormesson et avec sa famille. J'ai rencontré tout de suite, je lui ai dit, il faut que je rencontre votre fille. Je lui ai dit dès le départ que je ne ferais pas cette biographie sans rencontrer son épouse et son éditrice, et que je me suis permise de parler de ses amours parce que lui en parle. Il en parle dans « Je dirais malgré tout que cette vie fut belle », il rend hommage à sa femme, il a des mots extrêmement beaux que toute femme aimerait entendre de l'homme qu'elle aime sur Malciosana. Sa conception aussi de l'amour qui est quelque part celle d'un homme du 18e. Il a consacré à Chateaubriand un très bel ouvrage d'ailleurs sur les amours de Chateaubriand. Il s'intéresse moins à sa vie politique et littéraire qu'à ses amours. Donc, c'eût été vraiment une impasse de ne pas parler de cette vie-là. Et par ailleurs, comme je vous le disais, il lui-même, à la fin de sa vie, ouvre cette voie et écrit sur les femmes de sa vie.
Sophie des Déserts, Le dernier roi soleil, ça vient de paraître. C'est une coédition Fayard et Grasset. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous. Merci.
Europe 1.
Ne bougez pas, on va vous offrir dans un instant le plus beau, le plus joyeux des réveils musicaux avec Vivaldi, avec Rossini et la voix magique de Cecilia Bartoli, la mezzo-soprane italienne. Notre invitée dans 2 minutes.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1.
Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen.
Voici à présent une star au micro de C'est arrivé, une vraie star qui partout dans le monde remplit les salles et vend des millions de disques, mais pas une diva, ou alors une diva généreuse et pas capricieuse, en tout cas l'une des plus grandes interprètes lyriques de sa génération. Bonjour Cécilia Bartoli.
Bonjour.
On est très heureux de vous accueillir pour nous présenter un nouvel enregistrement consacré à Vivaldi et à ses airs d'opéra oubliés 20 ans après un premier disque. Vous continuez de nous faire découvrir un autre Vivaldi et c'est miraculeux. Et puis comment auriez-vous pu manquer cet anniversaire 150 ans tout juste après la mort de Rossini le 13 novembre 1868. Votre cher Rossini, voici un coffret monumental, sud intégral.
Ah oui,
il y a
oui,
tous les enregistrements.
Il y a beaucoup d'enregistrements, au moins tous les enregistrements que j'ai fait de Rossini depuis 30 ans.
15 CD, 6 DVD, les grands opéras bouffes, Barbier de Séville, Le Turc en Italie, etc. Les opéras seria, opéras sérieux que vous avez tirés de l'oubli comme Othello. Et puis toutes ces arias, toutes ces chansons synonymes de joie et de virtuosité. La lune est sur la mer,
ben oui.
La danza de Rossini, irrésistible et indémodable. On va reparler de Rossini un peu plus tard, mais je voudrais savoir, Cécilia Bartoli, quand on est lancé dans une telle danza endiablée, est-ce qu'on éprouve le même frisson que ceux qui vous écoutent ou est-ce que c'est la concentration qui domine sur le plaisir comme pour un pilote de Formule 1 ?
Finalement, c'est les deux. C'est la concentration, mais la joie aussi, parce que c'est une danse, justement, c'est une tarantelle. Alors, il faut donner tout cet esprit de la tarantelle avec joie, mais en même temps, beaucoup de concentration parce que c'est pas évident, mais c'est très difficile.
C'est très rapide ce que vous faites. C'est très très rapide. Il y a même des gens qui ont chronométré. Vous faites des secondes en moins que Caruso sur cette danza. Hein. Vous allez plus vite que lui. Alors Vivaldi, votre nom restera associé à Vivaldi parce que avant vous, on connaissait les Quatre Saisons, le Concerto pour mandoline, et c'était à peu près tout. Et jusqu'à vos incursions à la Bibliothèque universitaire de Turin, où dormaient les partitions des opéras oubliés de Vivaldi. Une partie des opéras d'ailleurs, certains ont été perdus. Hein.
Oui, certains ont été perdus. Et là, c'est un enregistrement que je tiens à le dire, c'est très spécial. Enfin, moi, quand j'avais enregistré Vivaldi, ça fait 20 ans, ouais. Et c'était une grande découverte. Finalement, on connaissait beaucoup le Vivaldi, la musique instrumentale et sacrée, mais pas nécessairement les opéras de Vivaldi. Et là, j'étais très concentrée sur la virtuosité à cette époque-là. Et là, le disque qui vient de sortir, c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde. Et finalement, c'est après 20 ans de découverte de la musique baroque aussi, parce que le premier disque, c'était le premier disque que je faisais en baroque. Alors là, beaucoup après. Alors,
et une prise de risque, hein. Il paraît que votre maison de disques avait un peu hésité à ce moment-là, à vous lancer dans ce Vivaldi.
Oui, ils avaient hésité parce que personne ne connaissait vraiment Vivaldi, les opéras de Vivaldi, les airs d'opéra. C'est pour ça que c'était un tout petit risque, mais je pense que ça...
C'était pour un immense succès, parce qu'il y a eu plus d'un million d'albums vendus de ce Vivaldi. Voici un deuxième Vivaldi avec des inédits. On en écoute tout de suite un extrait.
Thank you.
Cécilia Bartoli, comment l'entendez-vous ce Vivaldi? C'est un Vivaldi mélancolique?
Ah oui, là c'est un Vivaldi qui vient après 20 ans d'expérience dans le domaine baroque. Et je suis contente qu'il arrive maintenant ce Vivaldi, parce que c'est beaucoup, la musique est beaucoup plus sensuelle, plus profonde, plus mélancolique aussi. Alors on a besoin d'une grande expérience pour chanter ce genre de répertoire. Et en même temps, c'est très important de l'avoir fait, parce que c'est tellement différent du premier Vivaldi que j'avais fait quand j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus virtueuse, beaucoup plus énergétique. Et on peut dire ça, je ne sais pas.
Oui, énergique, rythmée.
Rythmée, voilà.
Virtueuse.
Virtueuse, oui, d'une virtuosité vraiment extrême. Ouais. Là, c'est le contraire. Il y a quand même des airs virtueuses, hein, mais plutôt des airs dramatiques, oui, comme ça. Mais la plupart des airs sont très
plus
lentes
profond,
et plus profondes.
Plus méditatifs, voilà.
Intimes.
Est-ce
oui.
que dans ces enregistrements, il y a aussi le plaisir, l'excitation, la fierté de recréer des airs qui n'ont pas été chantés depuis des siècles?
À l'époque, dans mon premier Vivaldi, oui, effectivement, c'était vraiment, tous les airs étaient des inédits. Là, après la sortie du premier Vivaldi, beaucoup de chanteurs
sont allés voir.
Ah, oui, allés voir,
oui,
intéressés.
Sûr.
Alors, dans ce disque, il n'y a pas vraiment des inédits, mais chaque fois, chaque interprète, là, chaque chanteur donne des visions différentes de la musique de Vivaldi. Ça, c'est la magie de la musique. Chacun peut l'interpréter d'une façon différente.
C'est effectivement magique. Vous restez avec nous, Cécilia Bartoli. On va parler de Rossini, vous voulez bien?
Ah oui, c'est mon premier amour, Rossini.
Je savais que ça pourriez vous plaire. Cécilia Bartoli, invitée d'Europe 1 ce matin. À tout de suite.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Tous les samedis à 11h sur Europe 1, prenez place à la table des bons vivants avec les cafés bio Haraku. 6 cafés exceptionnels cultivés en biodynamie à découvrir sur harakucoffee.com.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine. Continue avec vous, Patrick Cohen.
Avec Cécilia Bartoli, la grande mezzo-soprane italienne. Et parfois, on ajoute rossinienne. Est-ce que vous sentez rossinienne, Cécilia Bartoli?
Oui, je me sens rossinienne parce que c'est vrai, mon premier amour, c'était Rossini. J'ai fait mes débuts sur scène avec des rôles rossiniennes. Et finalement, je trouve que Rossini n'était pas seulement un grand compositeur, était un vrai professeur du chant.
Oui.
Parce que l'écriture rossinienne fait qu'on est obligé de s'entraîner tous les jours, de faire des exercices, de maintenir la voix élastique, souple en même temps, et très entendu, parce qu'il faut chanter dans un registre très grave et très aigu. Alors, voilà. Et ça te donne la longévité, je pense, aussi.
Ah oui.
À une voix. Ah oui, tout à fait. Mais il faut le retenir toujours dans le répertoire. Si on le quitte, lui te quitte aussi.
Voilà, donc plus de 30 ans que vous fréquentez Rossini, que vous faites vivre ses opéras, ses chansons. Vous l'avez dit, vous avez débuté avec lui, c'est en chantant Rosine du Barbier de Séville à la télévision italienne que vous êtes fait connaître.
Alors, la Rosine, je l'avais chantée sur scène à l'opéra. J'avais même pas 20 ans.
Oui.
Et après, j'étais invitée dans une transmission, oui, à la télévision italienne. C'était Rai Uno. Et,
oui.
Et voilà, c'était un moment.
Et c'était quoi? C'était Una Voce Poco Fa?
Una Voce Poco Fa.
Alors, disque à la demande. Je vous donne le choix pour un Rossini. Bah, Una Voce Poco Fa, un autre air du Barbier, un duetto de l'acte 1 avec Leonucci, ou bien Isabella de l'Italienne à Alger.
Ben on commence avec Rosine et après on passe à Isabella.
Alors on va écouter cet air qui vous a porté chance, en quelque sorte.
Oui.
Rosine du Barbier de Séville. Rossini, professeur de chant, oui. Disiez-vous. Rossini mort il y a 150 ans, pas très loin d'ici, de l'autre côté de la Seine, dans sa villa de Passy. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous est familier, Cécilia Bartoli, dont vous avez appris à connaître l'histoire, le caractère ?
Le caractère de Rossini, ah oui, c'était un homme quand même pas facile, hein, oui. Quand on pense à lui. Et c'était pas facile, mais en même temps, je pense qu'il avait beaucoup de sens d'humour et ils adoraient la cuisine.
Ah, mais évidemment, il a laissé son nom à un plat, au moins le tombeau de Rossini, évidemment. Oui. On en écoute une autre. Ah bah écoutez, on va choisir maintenant d'écouter Isabella de l'Italienne Alger. L'Italienne Alger, pronti abbiamo, tout est réussi dans ce qu'on entend, Cécilia Bartoli. Évidemment, c'est à retrouver dans ce coffret Rossini où on trouve l'essentiel de vos enregistrements de Rossini. C'est une merveille d'harmonie et d'équilibre, mais dans votre vie d'artiste de scène, vous avez eu parfois à batailler contre des orchestres.
Oui, chaque fois. Souvent, ça arrive quand on a des metteurs en scène qui ne sont pas vraiment inspirés par la musique et seulement par le livret. Et là, quelquefois, on a de petites batailles. Mais c'est normal.
Et
c'est,
des orchestres...
Il faut avoir de batailles sur scène, c'est toujours comme ça.
Et des orchestres qui sont trop loin des chanteurs ou qui ont tendance à écraser leur voix, ça arrive aussi.
Voilà, c'est ce que je trouve très important. Moi, depuis que je commençais à étudier la musique baroque et je commençais aussi à chanter avec ces instruments d'époque, je trouvais un équilibre incroyable entre et un vrai dialogue entre la voix et les instruments. Et je trouve que ça, ça m'a ouvert complètement une dimension sonore que je ne connaissais pas. Quand on joue avec des instruments modernes, surtout le répertoire baroque, maintenant on ne le fait plus, mais même le bel canto, même Rossini, je pense, a besoin de ce genre de couleur, de sonorité, de transparence, qu'on n'arrive pas à voir quand on le joue avec des instruments modernes, avec des grands orchestres.
Et la voix, votre voix, la voix humaine, Cécilia Bartoli, c'est un instrument comme un autre ?
Ben, la voix humaine, je pense que c'est l'instrument le plus flexible et qui doit dialoguer avec tous les instruments de l'orchestre, avec la flûte, avec le bois, avec le clarinet. Alors c'est... Et en même temps, c'est le plus mystérieux parce que c'est à l'intérieur. Quand on parle d'une orchestre, on parle de tous les instruments qui sont à l'extérieur. Et nous, on a, la voix, c'est à l'intérieur de nous. Alors, c'est-à-dire, c'est fragile, mais en même temps, ça peut être très, très puissante. Ça peut arriver justement tout droit à le cœur des gens.
Il y a donc ce coffret Rossini, ce nouveau disque de Vivaldi. Et puis, vous avez une autre actualité. Vous venez de créer au sein de Deka Classique votre collection Mentored by Bartoli avec... des artistes que vous voulez promouvoir, qui sont le premier d'entre eux, c'est un ténor qui s'appelle Camarena, Javier Camarena.
Oui, c'est un ténor magnifique, je le connais depuis des années, et il n'a jamais eu la chance de faire un enregistrement. Je trouve que c'est le ténor, un des meilleurs ténors de sa génération, et j'ai envie de donner ce que je reçois. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, il y avait dans la maison des disques, il y avait vraiment de producers qui étaient de guides pour nous. Par rapport au répertoire, par rapport à choisir voilà, qu'est-ce qu'il faut chanter sur scène, qu'est-ce qu'il faut chanter dans le concert.
Cécilia Bartoli, vous serez en concert le 3 décembre à la Philharmonie de Paris, je le dis pour mémoire parce que, évidemment, c'est complet depuis belle lurette. Merci d'être venu nous parler de toute cette actualité, de nous faire partager vos émotions et votre musique.
Super.
Sur Europe 1.
Merci, merci à vous. Au revoir.
Europe 1.
Ainsi s'achève C'est arrivé cette semaine. Rendez-vous demain, évidemment, pour C'est arrivé demain, c'est le dimanche, à 9h10 sur Europe 1. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Cohen, et vous avez bien de la chance d'avoir eu Cécile Bartoli.
Mais oui, et vous présentez Mediapolis, ce sera dans 5 minutes exactement sur Europe 1, le programme ce matin.
Alors je n'ai pas de star de l'opéra, mais j'ai des stars de l'économie. Julia Cagé, qui est professeure d'économie à Sciences Po, et Jean-Marc Vittori, qui est éditorialiste au quotidien Les Échos, avec des grands sujets économiques et sociaux, pas que les gilets jaunes,
D'autres couleurs ?
Les gilets jaunes, comme la blague a été faite je ne sais pas combien de fois, et puis le Brexit et plein d'autres choses.
Merci Olivier Duhamel, à tout de suite, et excellente journée à l'écoute d'Europe 1.